Camille Lemonnier, à vous la rue. Depuis 8 jours, débarqué au Mans avec un infiniment léger pécule racolé sur l'épargne de sa vieille maman, l'infortuné Gervais battait Paris, tirant l'éternel coup de chapeau d'un quémandeur devant des guichets qui se refermaient sur cette parole. « Oh, nous n'avons rien pour le moment, repassez demain. » Et de délai en délai, enfin, on lui donnait, dans le fétide entresol d'une agence pour professeur et maître d'études, la certitude qu'il pourrait entrer le lendemain comme pion chez un marchand de soupe de Vaugirard. Ses références avaient été jugées suffisantes. Il y avait 2 ans qu'il enseignait ponctuellement babe, bibobu au petit pitot de son village. On le tenait là-bas pour un méritoire baracolme. Mais la folie de la grande ville l'avait pris. Il avait résigné les 800 francs de son apostolat et un rouleau de poésie sous les bras, car poète et maître d'école n'avait-il pas 2 cordes à son arc? Il était venu, comme tant d'autres, tenter la chance hasardeuse dans l'inclémente capitale. Le marchand de soupe lui conférait 50 francs au mois. En y ajoutant la nourriture et le logement qui lui assurait l'établissement, c'était une situation sociale qui le grandissait dans son estime et provisoirement parait à ses besoins. Mais voilà, il lui restait tout juste 8 sous. Pour attendre à ce fameux lendemain, et midi était à peine de sonner quand il quitta la bienheureuse agence. Il s'arrêta pour 4 sous de miche qu'il entra ingurgité au Louvre, échoué sur une banquette dans la splendeur des glorieux Rubens rouges de la galerie. Maristris, Médicis. Ce matin de gel, sous sa frêle redingote boutonnée jusqu'au cou, l'avait transi. L'épuisement de son viatique depuis 4 jours le contraignait à se passer de son pardessus abdiqué, moyennant quelques pièces blanches dans une brocante. Il n'avait gardé qu'une secourable et peu décorative paire de moufles qu'en prévision de son départ lui avait tricoté la petite cousine Jeannette. Mais lui, au chaud des grandes salles, les pieds amollis par la tiède haleine des bouches calorifères, une torpeur délicieuse l'entoure alourdi. Il sentit monter à sa peau les frissons tièdes qui l'énervaient comme des chatouilles voluptueuses, où il lui venait la sensation d'être délivré de ses pauvres membres exténués. Toute une semaine, torturé et par les sévices de ce dur hiver, et il inclina la tête, finit par s'endormir d'un sommeil léger de petit enfant. Au bout d'une heure, le tassement d'un corps contre le ciel éveilla. C'était un famélique comme lui, entré dans les maîtres pour fuir la bise cinglante des rues, et qui, en roupillant, s'était effondré sur son épaule. Il chercha une autre banquette, mais toutes s'encombraient de phrases décharnées et blêmes, dodelinant dans des oscillations de lassitude et de sommeil. Un terrassier au bras de velours, laminé d'usure, tout à coup chut, battu d'une crise d'épilepsie. Et tandis que les gardiens le tenaient les jambes pour l'empêcher d'endommager le miroitement des parfaits, il se coula, investit la place toute chaude encore de la longue assiette de l'homme, presque heureux, se surprenant à un mouvement de féroce et repoussant égoïsme. Puis les habiles bleus à boutons de métal drainaient les bonnes salles miséricordieuses au pâtiras. Des fils de dos rafalés décroissaient en rechignant vers les issues. Et après cette station dans le mensonge d'un air d'été, il se sentit repris par l'horrible picotement du froid. Les pinçades du gris, du givre lui montaient au nez comme la morsure d'un caveçon. Ah, s'il avait pu s'endormir jusqu'au lendemain sur un bout de banquette dans le palais de l'illusion, d'où brutalement on les évinçait, lui et tous ses compagnonnages de claques-patins qu'il y avait frôlés. Fortuné Gervais réfléchit. Après tout, une nuit n'a que 12 heures. À 18 ans, une fois, pour aller voir une sœur mourante, il partit à la vesprée par les routes dans un paysage sans chemin de fer. Il marchait jusqu'à l'aube, en m'y prenant intelligemment pour ménager mes forces, dit-il. J'arriverai sans trop d'encombre au terme de cette dernière épreuve. S'il m'incombait une défaillance, je n'aurais qu'à penser à demain. Demain. Ah, ma chère maman, demain, ton garçon sera casé. Il pourra s'asseoir près d'un bon poêle, dormir dans un bon lit, manger à sa faim. Il évita les grandes avenues où s'engouffrait le vent, chercha les venelles étroites, les passages réchauffés par un coudoiement de petits peuples, le renfoncement des porches sous lesquels, par moments, de l'air de quelqu'un qui attend un ami en visite, il stoppait et délaçait ses plantaires. Mais le froid des dalles, en lui rigidifiant les orteils, bientôt le relançait, et il repartait en battant la semelle, le dos en boule pour offrir moins de prise aux étrivières de l'air vénéneux, venteux et sec. Un grand feu de voirie déchaussée dans une rue dont on renouvelait le pavement de bois, un feu envahi par un cercle de pitoyables loqueteux, lui suscita, après des poussées vigoureuses, une heure d'approximatif bien-être. Mais comme au bout de ce temps, il tentait de lutter contre la ruée des nouveaux occupants, une rixe faillit éclater. Son haut de forme s'écrasa sous un coup de poing. Il désespéra d'être le plus fort et recommença son cheminement à Vaux-la-Rue. Après des heures, enfin, il tombait dans la flânerie méfiée du boulevard Saint-Michel, des trolleys d'étudiants battant les trottoirs avec de grands gestes, des retapes de filles faisant les 100 pas devant le gaz des cafés, le reste du bourdonnement et du passage des foules du jour. Une gigolette lui chuchota un appel. Il s'effara, décanilla sans répondre, et au bout de quelques arpentées se retourna. Elle s'était rejetée sur un autre passant, la bouche fendue d'un grand rire avec le dandinement de ses hanches minces sous la peluche de son jaquette et dans les gants, le battement d'un éventail. Il se sentit une soudaine pitié pour cette chair de péché flairant en pâture dans le détritus social que les ferments de la sieste et les inclinations de nuit lâchaient à même le pavé. « Bof !» se dit-il en reniant son pensée charitable. « Elle chômera pas longtemps. Je suis bien bon de m'inquiéter pour elle. » Il ne songea plus qu'à s'amuser de cet éventail que la gourmande manœuvrait à coups de poignet par une température de Sibérie. Une ruse s'éveillait en lui et le rendait subtil. Il s'attardait devant la porte des cafés, ayant remarqué que chaque fois que des consommateurs entraient ou sortaient, une touffeur émanait un peu de la bonne chaleur où, au-dedans, mijotaient les tablés de buveurs. Et en passant devant la rue Monsieur le Prince, un fumet de cuisine l'orienta vers la vitrine d'un rôtisseur. Il constata les affinités qui rendent les sangs jumeaux. En effet, tandis que par les oculaires il absorbait la vision des grandes flammes roses, il s'en identifiait également la pénétrante et salutaire cuisson, au point que les papilles de sa chair gelée se déraidissaient comme sous l'onction des approches même du feu. Mais inopinément, un autre sens s'éveillait. La vue de la volaille à broche, en excitant en lui le goût, stimula la faim. Depuis midi, son ventre jeûnait. Il entra chez le boulanger, se paya 2 sous de pain, réservant les 2 sous qui lui restaient pour les éventualités du lendemain. Il éludait les coins de rue, l'arène tourbillonnante des places pour les cathares qui, par ses hautes fermetures et ses espaces découverts, soufflaient en tempête. Un expédient, jusqu'à minuit, lui allégea la froidure. Il exploita le combustible de divers bureaux d'omnibus, alternant les relais pour ne pas éveiller la défiance. Avec son chapeau de soie, sa redingote élimée, mais nette de souillure, il gardait l'air correct d'un délicieux guettant le passage de la correspondance. En voyant s'ébranler le dernier omnibus, il s'amertuma de la joie d'être cahoté lui-même parmi la tiolée nocturne que vers les lits et le sommeil charroyait la pesante guimbarde. Puis les bureaux fermèrent, les marchands de vin se barricadèrent, il n'eut plus la ressource des portes de café battant sur le va-et-vient des clients. Cependant, il ne perdait pas courage. Ce rude cœur du peuple, ce petit-fils des anciens serfs de la glèbe, pensa à ceux qui, là-bas, dans l'hiver du village natal, peut-être à 7 heures, sur l'oreiller, se tourmentaient de sa destinée inquiète. Quel bonheur il aurait à leur écrire demain, ce demain qui, en le sauvant, leur ferait à la misère et à l'amour de petite Jeanne nette des nuits de bons rêves. Car demain, c'était la fin des misères, le gain honorable, les sécurités de la vie, les 3 sous qu'il fallait pour leur écrire. Et tout à coup, dans le silence de la rue, il se mit à rire. « Mais non, imbécile, demain ce n'est plus demain, demain c'est aujourd'hui déjà. Voilà qu'une heure a sonné. Plus tard, elle viendrait le rejoindre, toutes les deux. Il épouserait Jeannette. Ils iraient vivre dans un petit appartement, bien chaud, en morguant les détresses passées. Il leur raconterait les précises péripéties de cette nuit polaire. « Merde, là !» se dit-il en remarquant que depuis un instant, pour mieux savourer sa chimère, il s'immobilisait dans l'angle d'un porche. Voilà que le froid, de nouveau, me saisit, me vrille les os. Oh, ce n'est qu'en me surveillant rigoureusement que je pourrais échapper à ce coquin de gel. Il prit un temps de course, se jeta du côté des Halles, et aussi bien le boulevard retombait à un mortuaire silence, avec le terrible tremblement de ses fils de gaz comme de cierges sur le vide noir des trottoirs, menaçait de le gagner à ses idées lamentables. Il était allé chercher le réconfort d'un coude avec les jeunes et les vaillants comme lui, l'éclat de rire de l'étudiant confiant en l'avenir, le carillonnement des grelots de l'illusion et de la gaieté. Combien n'avaient quitté leur compagne avec l'unique louis sur lequel lui-même était venu jouer sa fortune, et fièrement gueux, passaient la tête haute, illuminés par leur foi aux destinées. À présent, la nuit, cette affreuse nuit aux étoiles, comme dans l'arme d'argent sur les draps de catafalque, élargissait sur les avenues la solitude et le deuil des cryptes. Une réflexion arrêta Fortuné Gervais. Prenons garde à économiser nos pauvres jambes. J'en suis vraiment trop prodigue. D'ailleurs, la chaleur me revient. Il n'y a plus que cette sensation de glace dans les épaules. Il entendit sonner deux coups à l'horloge de l'hôtel de ville. Quoi? Il ne serait encore que 2 heures, gémit-il. Oh, il me faudrait encore marcher pendant 4 heures ou 5 heures. Un espoir lui restait. À 5 heures, il se rabattrait vers un quartier de cantine et de petit débit. Il irait s'y attabler avec les maraîchers dans la chaleur du premier feu. Ces 2 sous lui procuraient une réparatrice décoction de marc de café. Tout de même, le temps lui semblait s'allonger effroyablement. Il tâcha de récupérer la notion de l'heure en dédoublant les minutes, comptant jusqu'à 60, puis recommençant. Mais le quart d'heure qu'il gagna ainsi dura une éternité. Mieux valait s'en rapporter aux inexorables lois des choses. Une prudence excessive réglait ses mouvements. Il surveillait son esprit et ses pas de crainte d'une défaillance. À la longue, cependant, une lassitude le harassait, qui s'efforça de déjouer par de brefs repos alternés sur une jambe et sur l'autre. C'était un brisement de ses pauvres reins, concassé comme par des pitons, une ankylose de genoux qu'il ne savait plus plier, et surtout un recroquevillement si douloureux des orteils qu'il lui semblait marcher sur des folies chauffées à blanc. Chaque fois qu'il passait devant un banc, il fermait les yeux, fanatisé de l'envie épouvantable de s'y poser. Le cadran dans la maison dorée, tout à coup, s'alluma dans les ténèbres d'un ciel arctique. Encore une fois, l'heure le décevait. Se peut-il que 40 minutes seulement se soient écoulées depuis la sonnerie de l'hôtel de ville? Se dit-il, consterné, en tremblant de tous ses membres. Mais il faudrait admettre alors que l'heure gèle aux horloges, comme l'air de cette exécrable nuit. Mon Dieu, je crois en vous, je crois à vos miracles. Donnez-moi la force d'aller jusqu'au bout. Sa gorge se déchirait dans des abois de toux. Il subissait l'évidence de sa poitrine, mise à nu et tenaillée jusqu'au fond par des crocs. Et partout où on dort, il y a là deux alcôves qui reposent des gens heureux. Plus même une lumière aux étages, il n'y en a plus. L'indice d'une veillée triste près d'un lit de moribond. L'alarme d'un chercheur de problèmes. Oh, je me sentirai moins seul. Et sous les réverbères blêmes, il perçut au loin des silhouettes se mouvant dans la désolation nue des trottoirs. Un besoin de se frotter à une chaleur d'humanité fraternelle le ramassa dans un dernier effort. Sans doute, c'était des malheureux comme lui. Du fond de leur cabane, les deux sergots regardèrent accourir singulier passant cette nocturne caricature d'un pauvre diable claquant des dents et grelottant sous une redingote ridicule. Hé, l'ami, où allez-vous de ce train? Une honte fière le redressa. Ben, je m'en retourne chez moi. Mais après quelques 100 mètres, son pied dérapa. Il tomba sur les genoux. Serait-ce la fin, Seigneur? Mon Dieu, pensa-t-il. Et l'agonie morale commença. Il renia ce prénom de fortuné, reçu avec l'ondoiement baptismal, et qui le vouait aux joies de la vie. Il maudit les années de collège, l'instruction vaine, la duperie de diplômes qu'il avait incité aux leurres des ambitions mauvaises, alors qu'à l'exemple des siens, il eût pu bêcher la terre, forger le fer, manier la cognée dans les bois. En se raidissant, Gervais parvint à se traîner jusqu'à un seuil. Une seconde seulement, rien que le temps de reposer mes pauvres pieds déjà morts. Puis je repartirai, j'irai jusqu'à ce que je m'abattent sans espoir de me relever. Ah, les hommes, les canailles! Ce cri de déréliction sanglota sans écho. Depuis 8 jours, il colportait sous les basques son rouleau de poèmes, une pauvre créature écriture de rêves recopiés de sa plus belle main, de cette main de maître d'école qui, au petit, apprenait à tenir la plume. Sentant sa poitrine se prendre, il l'éploya contre sa gorge, raclée par des râles par-dessus, noua les bras en croix pour s'en se réchauffer, au moins à cette flamme des beaux soirs. Il pensa à la musique. Maman, Jeannette, la petite maison sous les treilles, ma baby, Bobu, il y avait une fois une belle princesse. Des battements de cloches sans souffrance martelaient ses tempes. Des choses, chocs tumultueux de fonte, un fracas de mondissait à toute vitesse sur les plaques tournantes, le bruit des hautes eaux contre les piles d'un pont. Et une figure ne s'effaçait pas tout de suite. Jeannette, faisant les 100 pas sur le boulevard, avec le tordon de ses hanches minces et le claquement de l'ironique éventail dont elle fouettait cette nuit d'épaule. Camille Monnier.